Je veux juste vous demander, vous auriez aimé être dans la grotte de Bethléem? Oui. Et vous y êtes? Vous y êtes? Est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes dans la grotte de Bethléem? Pas toi? Tu y es pas? Ah, bah voilà. Alors, j'ai pas besoin de vous l'expliquer, alors, puisque tu y es. Tu sais ce que c'est. L'église, c'est comme les matrioshkas. Tu sais ce que c'est? Tu sais, ces poupées russes qui s'emboîtent les unes dans les autres, là. T'en as une petite, toute petite, peut-être une plus grosse, puis une plus grosse, une plus grosse. Il n'y a pas de limite. Et l'église, c'est comme ça. Dans l'église, tu vois bien, dans les matrioshkas, tu en as une, toutes les autres, elles ont la même forme, les mêmes couleurs. Simplement, pour qu'elles s'emboîtent, elles sont forcément, il y en a une qui est plus petite, une plus grosse. Eh bien, dans l'église, il y a quelque chose d'analogue. C'est-à-dire que toute l'histoire de l'église, toute l'histoire des hommes, toute l'histoire des hommes et de leur relation avec Dieu, qu'ils la reconnaissent ou qu'ils ne la reconnaissent pas, c'est comme les matrioshkas. Tout est toujours partout. Il suffit que Jésus soit né dans la grotte de Bethléem pour que tous, on soit présents aussi dans la grotte de Bethléem. Il suffit, c'est peut-être pas le terme, mais parce que le Christ est mort sur le mont Golgotha, qu'il est ressuscité dans le tombeau, qu'il est monté qu'il a disparu à nos yeux à son ascension sur le mont des Oliviers, parce qu'il a vécu ça, on le vit aussi. Et ne croyez pas que c'est ce que ce sont des images, ce sont la réalité. La réalité, c'est que tout correspond. Mais tout est transposé. Tout est toujours la même chose, si je puis dire, mais en même temps sous une forme un peu différente. Mais la réalité est la même. Qu'est-ce que l'on pouvait voir à Bethléem? Vous avez entendu l'évangile, vous le connaissez par cœur de toute manière. Un enfant qu'une maman avait mis au monde, qu'un père adoptif soignait, accompagnait, des bergers qui sont venus adorer cet enfant-là, et on n'adore que Dieu, on n'adore pas des personnes humaines, des rois mages qui sont venus apporter de l'or, de l'encens et de la myrrhe, une étoile qui illuminait le monde pour ceux qui savaient voir. Bref, il y avait tout. C'est tout ce qu'on tout ça, on le voit aujourd'hui. L'enfant Dieu. Vous vous rendez compte que c'est un Dieu, que c'est Dieu, parce qu'il n'y a pas plusieurs dieux, mais que c'est Dieu qui est devenu un enfant tout petit au sein de sa mère. Vous voyez l'humilité de ce Dieu qui s'est fait tout petit, qui est venu sur la terre sans se faire remarquer, lui et Dieu. Alors qu'on aurait pu, on pouvait attendre, et on a beaucoup attendu, un Dieu tonitruant, tout puissant, qui avec un coup de baguette magique aurait changé le cours des choses. Non, il apparaît tout petit. Et il apparaît où? Dans une grotte, c'est-à-dire dans les entrailles de la terre. C'est pour la première fois, parce qu'il y retournera. Il retournera dans les entrailles de la terre au moment de sa mort, quand il descendra dans le royaume de la mort, dans les enfers, comme on les appelle, de manière à libérer ceux qui sont prisonniers des démons dans les enfers, dans la mort. Il y a aussi sa mère, qui est là, qui est attentive aux besoins de cet enfant. Et elle est peut-être la seule qui sache que c'est Dieu. Et c'est pour ça qu'elle avait tant, en même temps que son amour maternel, tant de vénération pour lui. Parce qu'elle connaissait, comme tous les Hébreux à cette époque-là, les Écritures par cœur. Et elle les avait méditées dans son cœur, comme il est dit dans l'Évangile. Et après l'annonciation qu'elle avait reçue, l'annonce qu'elle avait reçue qu'elle serait mère du Sauveur par l'archange Gabriel le jour de l'Annonciation, à partir de ce moment-là, elle a compris que celui qui allait naître et qui maintenant est né d'elle était le Dieu que tout le monde attendait, que le monde attendait, que les prophètes avaient annoncé et que le monde entier attendait, même sans le savoir. Mais la mère de Dieu, vous la voyez? Tu l'as pas vu? La mère de Dieu, c'est celle qui nous donne, qui donne la naissance au Christ. Le Christ, vous l'avez vu naître pendant, vous l'avez perçu, vous l'avez reçu même pendant la liturgie, pendant la communion. Et qui est-ce qui nous donne la communion? C'est l'Église, la communauté des hommes unis à Dieu. C'est l'Église qui nous donne le Christ. L'Église et la Mère de Dieu, c'est la même chose. L'Église, c'est comme un grand corps vivant, si vous voulez, comme le sein de la Mère de Dieu, qui s'est élargi jusqu'aux dimensions de tout l'univers pour porter le Dieu devenu homme et pour en même temps porter tous les hommes en elle pour nous permettre en elle-même, dans son sein et dans l'Église, comme le phénomène de la matrioshka, de nous rassembler avec Dieu dans son sein. Les bergers, vous les avez pas vus? Les bergers, ce sont aussi ceux qui nous ont précédés dans la foi, ceux auxquels a été annoncée la bonne nouvelle de la naissance du Sauveur. Ce sont des anges qui leur sont apparus et qui leur a annoncé que sous le signe de l'humilité, ils reconnaîtraient le Sauveur. Et nous, éclairés par les anges aussi, et comme l'ont annoncé les apôtres, qui sont les bergers, qui sont les pasteurs, nous sommes invités, nous aussi, à croire, à voir, à participer, à nous émerveiller, à sentir la merveille qui est en train de se réaliser à nos yeux. Qui sont les mages qui étaient présents, qui sont aujourd'hui, je veux dire, les mages qui étaient présents dans la grotte? Les mages, c'était des païens qui, merveilleusement, miraculeusement, ont compris, à travers des signes astronomiques, à travers des étoiles, à travers le langage des étoiles, à travers des signes cachés, qui ont compris que quelque part à Bethléem devait naître le roi d'Israël, le vrai roi d'Israël. Comment ceux qu'on appelle les rois mages, comment ont-ils pu avoir une âme aussi délicate, aussi fine, pour d'une part se fier au langage des astres, et d'autre part, en faisant confiance à la révélation qu'ils recevaient ainsi, ne pas douter que l'enfant qui venait de naître était le Messie que les Juifs attendaient et qu'eux ne connaissaient pas. Ça leur demandait une foi totale. Et en échange de cette foi, ils donnaient à Dieu les présents qu'ils avaient. Eh bien, nous sommes, nous aussi, ces mages. Nous sommes issus du paganisme. Nous étions païens avant notre baptême. Il a fallu que l'Esprit Saint vienne et nous éclaire pour découvrir la vie divine, pour découvrir la vie, l'existence et le mode de de mode de communication de Dieu aux hommes. Donc nous sommes, nous aussi, les uns et les autres, nous sommes ces mages. Mais vous allez me dire, mais qu'est-ce que nous avons comme or, comme encens et comme myrrhe? L'or, c'est une richesse. Et qu'est-ce que nous pouvons offrir comme richesse à Dieu? Pas grand-chose, parce que tout lui appartient. Tout ce qui nous prête, c'est à lui. Donc lui rendre ce qui lui revient, ce n'est pas un don. Le seul don que nous pouvons faire, c'est le don de nous-mêmes. L'or que nous pouvons offrir à Dieu, c'est l'or de notre personne, l'or de notre moi, de notre volonté, le don de nous-mêmes à Dieu. L'encens, qu'est-ce que c'est l'enfant? Pardon, qu'est-ce que c'est l'encens? L'encens, c'est cette matière odoriférante que vous connaissez et qui part en fumée, qui s'offre à Dieu. Eh bien, l'encens que nous offrons, c'est notre prière. Notre prière, elle s'élève, elle se consume, elle vient de nous et nous l'offrons à Dieu. L'or, l'encens et la myrrhe. Et la myrrhe, qu'est-ce que c'est? La myrrhe, c'était un onguent, c'était un parfum très fort, avec lequel on embaumait, avec lequel on... que l'on mettait autour des morts pour en faire des momies, pour leur accorder, pour les empêcher de pourrir trop vite, ou dans certains cas, de les empêcher de pourrir complètement, des espèces de pétrifiés, en quelque sorte. C'est-à-dire d'essayer de leur donner, de leur communiquer une vie sans fin. Mais nous n'avons pas une vie sans fin, nous avons une vie éternelle. Donc, la myrrhe que nous pouvons offrir à Dieu, c'est notre joie, la certitude d'être engrangé, d'être élevé dans le royaume, dans le nouveau royaume que le Seigneur nous donne, auquel il vient nous initier en s'incarnant sur la terre parmi les hommes. Et après, vous me direz que vous ne connaissez pas, que vous n'êtes pas dans la grotte de Bethléem. Ah si, il manque une chose. La grotte. Une grotte, c'est les entrailles de la terre. C'est noir. Il n'y a pas de lumière. Ce sont les ténèbres. Ne soyons pas trop pessimistes. Mais enfin, quand même, par certains côtés, on peut penser que la vie sur terre est un petit peu ténébreuse. Nous n'avons pas que des bonheurs sur la terre, nous avons des souffrances de tous ordres. Nous avons nos échecs qui sont aussi des souffrances. Vous êtes trop jeune pour avoir des gros échecs personnels, mais des échecs on en a tous. Et ces échecs-là sont des ténèbres pour nous. Je ferai le lien aussi avec les épisodes historique que nous sommes en train de vivre avec cette fameuse maladie et ses conséquences qui nous emprisonnent dans nos maisons. Ça aussi, ce sont des ténèbres. Il y a à peine moyen d'avoir des communications humaines normales. C'est toléré pour cette nuit de Noël, mais c'est simplement toléré et ça ne durera peut-être pas longtemps. Donc les ténèbres, elles nous entourent. Puis il y a d'autres formes de ténèbres dans nos maladies, dans les maladies, dans les morts, dans les deuils que nous avons à subir. C'est une forme de ténèbres aussi. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans la grotte de Bethléem que vous avez vue? Il y avait l'enfant Jésus enfant qui était enveloppé de bandelettes comme une momie, de bandelettes blanches, parce que la blancheur, c'est la lumière et c'est la résurrection. Donc déjà, dans les ténèbres, de la grotte de Bethléem luisait déjà une lumière, la lumière divine, dont les bandelettes blanches ne faisaient que de refléter la divinité de l'enfant qui se présentait humblement. Eh bien, cette lumière-là, nous la voyons, nous pouvons la voir constamment. Nous la voyons pendant la liturgie, non seulement à travers les bougies, les lumières, qui ne sont que l'image, qui sont que les icônes d'une lumière plus profonde, mais nous voyons notre cœur qui est illuminé par la foi et qui ainsi décèle, comprend, perçoit la vraie lumière divine qui est derrière tout ça et qui provoque tout ça. Donc nous sommes vraiment, là encore, dans la grotte de Bethléem, illuminés dans les ténèbres. Et dans cet état d'esprit, dans cette vision, et je vous répète, ce n'est pas une image, ce n'est pas de la poésie, c'est une réalité. Et dans cette réalité-là, nous percevons, nous participons à une vie qui est éternelle. Et cette petite lumière de foi qui est en nous, qui nous fait comprendre ce qu'était la lumière du Christ dans la grotte de Bethléem, est appelée à croître perpétuellement, toujours. Mais comment peut-elle croître ? Elle ne peut pas croître sans arrachement, sans détachement, sans souffrance, sans sacrifice. Parce que nous sommes devenus égoïstes. Nous voudrions rester dans, même si ce sont des ténèbres, nous voudrions rester à vivre selon ce monde, avec l'amour de papa et maman, avec un travail, avec un peu d'argent, avec un peu de richesse, un peu de la bonne santé et tout ça. Ça, ce serait notre idéal. Mais cet idéal-là, de toute manière, il devra disparaître, parce que ce qu'on appelle cet idéal n'est qu'une opacité, n'est qu'une illusion. Et la réalité est au-delà de cela. Et pour parvenir à cette réalité, il faut réussir, avec la grâce de Dieu, à se détacher, à enlever l'enveloppe, la pellicule, le vernis qui recouvre notre âme de manière à devenir des êtres de lumière. Et cette illumination définitive de notre vie aura lieu à un moment de déchirement, qui en même temps est un moment de gloire et de joie, qui est le moment de la mort. Au moment de la mort, l'homme, tout homme, est confronté à la lumière de l'amour de Dieu. Et souvent, la mort devient pour nous des ténèbres parce qu'elle nous fait peur. Alors que si nous avons le regard auquel que je vous invite à avoir, en regardant comment vous et nous sommes dans la crèche, si nous avons ce regard-là, nous devrions comprendre que le passage de la vie à la mort, qui arrive à des âges différents, ça, c'est au contraire l'introduction dans la lumière. Et cette lumière-là, c'est l'amour de Dieu. Ce n'est pas une lumière visible par les yeux, mais c'est une lumière qui réchauffe l'intérieur de nous-mêmes. Et comme le Christ lui-même, qui après 30 ans, plus ou moins 33 ans, après sa naissance de la grotte de Bethléem, est passé par l'agonie, par les moqueries, par l'humiliation, une fois de plus, par la mort, c'est ça qui lui a permis d'accéder à la résurrection et à l'ascension dans le ciel, nous-mêmes, avec lui, en lui, avec sa force, nous sommes appelés aussi à accepter joyeusement la mort par laquelle il est passé, en y passant nous-mêmes, de manière à accéder à la pleine lumière de la résurrection. Mais cette lumière de la résurrection, nous pouvons la voir aujourd'hui, nous la voyons aujourd'hui, c'est ce dont nous avons été témoins pendant la liturgie, et j'espère dont vous serez témoins toute la journée de Noël, mais aussi le lendemain, et aussi le surlendemain, et aussi le sur-surlendemain, etc., etc., jusqu'à la fin des temps. Alors, de quoi allons-nous nous plaindre ? Est-ce que Dieu nous abandonne ? Est-ce que Dieu nous laisse ? Est-ce que Dieu est difficile à trouver ? Mais il est là en permanence. Il est partout. Il est visible partout. Simplement, là aussi, il y a un renoncement. Il ne faut pas chercher à le voir avec nos yeux, les yeux de notre tête. Faut le voir avec les yeux de notre âme. Et l'Évangile, la vie de l'Église, la mère qui nous donne la vie, comme qu'est l'Église, nous permet d'ouvrir des yeux intérieurs, les yeux de la foi. Cette ouverture a commencé à se réaliser au moment de notre baptême. La lumière a fait irruption en nous au moment de notre crispation. Nous l'alimentons perpétuellement par la communion et par le repentir, donc par la confession, lorsque nous remettons des lunettes noires pour nous empêcher de voir. Les lunettes noires, c'est encore une image, évidemment. Mais tous les sacrements, la confession, nous permettent de revivifier, de revoir, d'éclaircir notre regard pour être témoin de ce que l'Église met à notre disposition.